tous les êtres humains naissent libres et égaux.
Auditeurice de Nantes ou d'ailleurs, bonjour. Bienvenue sur la planète de la Ligue des droits humains, section Nantes, autrement dit de la LDH nantaise. Bienvenue au bar Personne, où nous allons avoir durant toute cette saison notre rendez-vous mensuel. Les toutes prochaines seront le mercredi 30 octobre, 4 décembre et 18 décembre à 18h30. C'est dans ce bar que nous enregistrerons toutes nos chroniques. Pour celle-ci, nous allons profiter de notre rentrée politique et sociale pour causer démocratie. Un grand bonjour à Barbara, Philippe, Fabienne, Myriam, Jean-Michel et à notre équipe chronique, Élodie, Nathalie et Nathalène. Nous allons commencer par faire un tour des groupes de travail de la section et puis nous foncerons tête baissée vers le sujet du jour. C'est parti avec Barbara pour le groupe de travail des droits des étrangers.
Nous nous occupons des titres de séjour et demandes d'asile à travers des réunions avec les avocats. Et là, à la rentrée, eh bien, les assos et les avocats constatent que 11 décrets ont été mis en place cet été en application de la loi Darmanin. Et ce sont des décrets qui sont extrêmement problématiques pour chaque cas qui resserre les taux policiers.
Me revoilà pour vous parler du groupe de travail Femmes. Il y a eu le 28 septembre dernier une manifestation annuelle en défense du droit à l'avortement. Il y aura le 25 novembre prochain une manifestation au rassemblement pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et en ce qui concerne le groupe de travail de lutte contre les discriminations, je vois Nathalie qui me fait signe de vous dire qu'il y a une invitation généralisée pour tous aux permanences d'accès aux droits les 2e et 4e mardis de chaque mois.
À ta place, j'aurais bien les boules d'avoir voté pour rien, parce que bon, le Premier ministre nommé par Macron, il correspond pas du tout au résultat des élections.
Alors peut-être, mais je te rappelle que c'est l'article 8 de la Constitution. Le président de la République, il est libre de nommer qui il veut comme Premier ministre.
Le mec, il respecte même pas le vote des Français.
Non mais écoute, c'est une chance de pouvoir voter, tu m'entends ? Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir voter, et nous, on a la chance de pouvoir voter et de vivre en démocratie.
Maman. La démocratie, c'est bien une forme de gouvernement où la souveraineté appartient au peuple.
Oui ?
Et tous les gens qui ont manifesté contre la réforme des retraites, ils ont été entendus ? Et la loi asile et immigration, on en parle ? Les thèmes de la liberté, de l'équité, de l'émancipation et de la solidarité sont indissociables du principe démocratique, non ? Alors, au lieu de parler du danger des pensées d'extrême droite qui sont nuisent à la démocratie, on préfère pondre des lois qui visent les étrangers.
Oh mais t'exagères toujours !
Et tous les 49-3 ? Et les rassemblements en soutien à la Palestine qui ont été interdits ?
Arrête un peu !
Ben dis-moi, elle est où la souveraineté du peuple ?
Alors, pour commencer notre petit échange, une première question. Quels sont les indicateurs de la démocratie et quels en sont les garants ?
Alors, en termes d'indicateurs, si on prend les choses de façon didactique, on va dire, dans les textes, dans leur histoire aussi, au-delà de la fameuse souveraineté qui appartient au peuple, comme on l'entendait à l'instant, c'est l'égalité des droits pour toutes, pour tous. C'est le respect des libertés individuelles et collectives. C'est la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires et surtout l'équilibre de ces trois pouvoirs-là. Et puis c'est le pluralisme politique. C'est-à-dire que non seulement plusieurs partis, avec chacun leurs idées, peuvent proposer de venir gouverner, et surtout, on a le choix libre d'aller voter pour l'un ou pour l'autre. Ça, c'est des indicateurs, on va dire, un peu classiques, quoi. Après, s'assurer que tout ça fonctionne, ce que vous appelez les garants de la démocratie, eh bien, c'est s'assurer que ça ne glisse pas de l'un sur l'autre, dangereusement, parfois. Non pas parce que les textes seraient mal écrits, mais parce qu'ils peuvent être interprétés, parce qu'ils peuvent être non respectés.
Et qu'en est-il de la confiance dans les institutions et du processus démocratique qu'elles incarnent ?
À mon sens, la démocratie, il y a trois questions. La première, c'est faire vivre réellement la démocratie représentative. Et là, il y a une question que je pose et qui est posée par le peuple. c'est comment on peut contrôler nos élus, comment nos élus doivent et peuvent rendre des comptes. La deuxième chose, c'est que la démocratie ne se réduit pas au droit de vote. Il faut, en complément et de manière absolument encastrée, la démocratie représentative, il y a ce qu'on appelle la démocratie participative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que partout sur le territoire, on pourrait prendre des exemples à Nantes ou dans la banlieue nantaise, où il y a des personnes qui s'intéressent à des avenirs de situations sur ici une déchetterie, là l'aménagement d'une route, ailleurs la création d'une école. Eh bien, à chaque fois, de manière tout à fait pertinente, les citoyens peuvent s'engager en ayant des idées, en proposant des solutions, y compris en poussant le débat de très loin avec des oppositions, mais qui peuvent trouver des solutions tout à fait pertinentes. Et enfin, la dernière chose, c'est il n'y a pas de bon pouvoir sans contre-pouvoir. Un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif doit se dire il faut que dans la société, les contre-pouvoirs puissent s'organiser justement pour nourrir le débat démocratique, contester s'il faut et si c'est nécessaire les décisions qui sont prises, les remettre en cause, mais en même temps faire progresser le débat et les décisions.
Qu'en est-il de la séparation des pouvoirs dans notre démocratie ?
Et cette séparation des pouvoirs, elle ne doit pas apparaître comme une exigence figée, déterminant une sorte de mode sans nuance de sa mise en œuvre. Si on peut assez rapidement voir un petit peu quelle est la fonction de chaque pouvoir, on se rend compte également qu'il y a un pouvoir dont on oublie un petit peu la fonction. C'est le pouvoir du peuple, puisque je rappelle quand même la définition de la démocratie telle qu'elle figure dans la Constitution de 1958. Reprenant une phrase qui est attribuée à Lincoln, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça signifie que quelles que soient les divisions qui affectent le pouvoir, ces divisions ne sont pas susceptibles, ne doivent pas avoir pour conséquence une dépossession du peuple. Ce qui explique que autant les pouvoirs sont importants dans leur fonction, autant sont essentielles les modalités selon lesquelles ils sont recrutés, ces pouvoirs. Dans un espace démocratique, les pouvoirs ne peuvent exister que par leur fondement populaire, par leur fondement démocratique. Or, de plus en plus, on assiste à un double phénomène qui, me semble-t-il, est extrêmement dangereux et peut, à terme, affecter l'idée même de démocratie. C'est d'une part la disparition ou l'élision du peuple, qui de plus en plus devient l'opinion publique, c'est-à-dire celui dont on essaie de sonder les cœurs et les reins afin de savoir ce qu'il pense. La question n'est pas de savoir ce que le peuple pense, la question, mécaniquement dans une démocratie, c'est de savoir ce que le peuple souhaite exprimer. Et donc il est aujourd'hui important de redonner au peuple, dans son expression électorale, la fonction qui est la sienne, ne pas se contenter de sondages d'opinion qui nous diraient ce que le peuple souhaite à un moment déterminé.
Mais alors justement, si on revient aux dernières élections, le peuple peut se sentir dépossédé.
Oui, le peuple peut se sentir dépossédé. Et ce n'est pas la première fois qu'il se sentirait dépossédé. Parce que, bien sûr que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, s'inscrit dans des mécanismes institutionnels, respecte des procédures. Mais il peut arriver que le peuple ne soit pas satisfait de ce que les gouvernants qu'il a le sentiment de s'être choisi font. Et à ce moment-là, il y a quand même la possibilité pour le peuple d'avoir recours à l'insurrection, d'avoir recours à la subversion des institutions. Il y a dans la démocratie aussi l'idée qu'il peut y avoir une subversion révolutionnaire du pouvoir afin d'aboutir à une modalité différente de son exercice.
Par rapport à ta question, Élodie, quelles que soient nos opinions politiques ou non politiques, enfin, de chacun et de chacune de nous, l'élection législative a montré deux choses. Le peuple, dans le sens, dans la définition qu'a donnée Jean-Michel, le peuple a donné deux messages. Enfin, il ne faut pas être fin observateur pour dire que le premier message du premier tour, c'est nous ne voulons plus, ou nous rejetons, ou il y a un rejet des deux tiers de la population des politiques qui ont été menées par les gouvernements de ces dernières années. Et le message du deuxième tour, c'est il y a deux tiers de la population qui est entré dans le Front républicain en disant on ne veut pas d'un gouvernement d'extrême droite. Je ne sais pas quelle aurait pu être la solution, mais en tous les cas, il est certain que aujourd'hui, le gouvernement tel qu'il a été mis en place, avec une alliance donc des représentants des majorités sortantes et de la droite, avec une situation où le Rassemblement national est arbitre, ne correspond évidemment pas objectivement aux deux messages qui ont été envoyés par le peuple dans cette élection. Et ça, nous, je crois qu'au niveau de l'association, on est tous d'accord pour dire que cette affaire-là nous inquiète et qu'il ne faut certainement pas qu'elle conduise à l'écœurement ou qu'elle conduise au rejet sans perspective ou encore, si je puis dire, pire, à la résignation. Parce que ces trois comportements-là conduiraient aussi au renforcement des idées de rejet, des idées sans perspective qui sont celles de l'extrême droite.
Donc, si j'ai bien compris, le vote servirait encore à quelque chose.
C'est tout notre combat d'aujourd'hui, c'est-à-dire que le pire serait d'imaginer qu'on soit résigné, comme l'a dit Philippe, c'est-à-dire qu'on dise, puisque après avoir voté et choisi majoritairement un Front républicain, on nous impose un gouvernement qui a fait 46, qui a réussi à élire malheureusement 46 députés. Donc, mais on est légitime dans notre façon d'avoir choisi. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à prouver maintenant, de dire le droit est de notre côté. On a eu raison, on a voté, on a élu ce front-là, on a élu ces gens qui auraient dû nous représenter, qui auraient dû être la partie, le deuxième pied de l'exécutif, c'est-à-dire le chef du gouvernement notamment. C'est pas le cas, on va continuer à se battre. Philippe a parlé de contre-pouvoir, Jean-Michel a parlé d'insurrection. Et entre les deux, il faut trouver la juste voie pour redire qu'on ne va pas céder à ça et qu'on est légitime parce qu'on a choisi. Parce qu'on a choisi l'égalité des droits, parce qu'on a choisi les libertés et parce qu'on a choisi une forme de solidarité de nos sociétés qu'on est en train de nous rejeter.
Qui s'arrangent selon leur convenance. Voilà qu'on les dérange, voilà encore qu'ils manigancent. Car c'est un jeu de dupes auquel ils nous convient. Tous ceux qui sortent des urnes doivent convenir à leurs envies. Si nous choisissons mal, ils changeront les règles. Pour qu'ainsi au final, leurs mains ne lâchent pas les rênes. Notre maison, démocratie. Notre horizon, démocratie. Notre raison, démocratie. On se bat pour la démocratie, notre maison démocratie, notre horizon démocratie, notre raison démocratie, on se bat pour la démocratie. Ils ont le verbe haut et les bonnes manières. Ici, Victor Hugo maîtrise la langue de Molière. L'art de la rhétorique, dans leurs plus beaux habits, parle de république et dîne avec les grands lobbies. Devant les caméras, tenus par leurs amis, ils nous pointent du doigt et nous recouvrent d'infamie. Mensonges et boniments sont le pain quotidien qu'ils offrent.
ira bien. Notre maison, démocratie. Notre horizon, démocratie. Notre raison, démocratie. On se bat pour la démocratie. Notre maison, démocratie. Notre horizon, démocratie. Notre raison, démocratie. On se bat pour la démocratie.
Point de vue de Pierre Tartakovsky, président d'honneur de la LDH. Le scrutin uninominal majoritaire à deux tours, conçu pour fabriquer des majorités avec des minoritaires en voix, a fait la démonstration de son caractère toxique. Il est urgent de lui opposer une autre logique de représentation, faisant une large part à la représentation proportionnelle, condition et gage d'un débat démocratique. Qu'en pensez-vous ?
On sait que les systèmes électoraux déterminent des types de résultats et que chaque système électoral se voit assigner une finalité. Le majoritaire à deux tours, à un tour d'abord, est un système qui a pour fonction de définir un bipartisme. Grande-Bretagne, États-Unis. Il n'y a pas de possibilité d'un tiers parti ou s'il émerge à un moment, il disparaît. Le majoritaire à deux tours a pour fonction de forcer les partis politiques par coalition à déterminer des alliances de second tour qui permettront éventuellement de définir une majorité parlementaire qui soutiendra une action gouvernementale. Et la représentation proportionnelle, qui a plusieurs modalités, il n'y a pas une seule représentation proportionnelle, a pour fonction de représenter chaque force politique à hauteur des suffrages qui se portent sur ses candidats. Chaque système électoral a ses forces et ses faiblesses. Disons que les systèmes majoritaires ont l'avantage, encore que cette fois-ci, la preuve est faite que ça ne marche pas très bien, mais ça ne marchait pas très bien sous la Troisième République non plus, hein, c'est le même système. Mais les systèmes majoritaires ont pour fonction de dégager des majorités gouvernementales. En clair, dans le système majoritaire, il faut que les partis se mettent d'accord avant même de l'élection pour savoir ce qu'ils vont faire dans un cadre gouvernemental. Le scrutin proportionnel qui tente à permettre à chaque parti d'être représenté à hauteur de ce que souhaitent les électeurs définit par principe des parlements qui sont des parlements éclatés. C'est le cas en Allemagne, c'est le cas, je ne veux pas quitter le citer Israël, mais c'est le cas aussi en Israël, malheureusement, puisque ça a permis à l'extrême droite d'accéder au pouvoir. C'est le cas dans quasiment pas la totalité, mais une grande partie des démocraties modernes. Et à ce moment-là, tout le travail de conception du programme gouvernemental est la responsabilité des forces politiques telles qu'elles sont représentées au sein du Parlement. Il n'y a quasiment dans ces régimes de proportionnel aucune situation dans laquelle un des partis a la majorité absolue. Et c'est plutôt une bonne chose. Parce que gouverner, c'est tenir compte non pas de la totalité des opinions de tout le monde, c'est pas possible, mais de définir un programme gouvernemental, et non pas électoral, gouvernemental, qui ait le mérite de satisfaire l'immense majorité du corps politique.
Oui, c'était bien de reparler du mode de scrutin aussi. Après, ce qu'on n'a pas évoqué tellement aussi, c'est la Constitution, c'est-à-dire la loi des lois, le texte sur lequel, à partir duquel les institutions s'organisent. Et finalement, la Constitution de 1958, avec tous les amendements qui ont suivi, ont fait de notre chef de l'État, cette tête de l'exécutif, on a l'impression qu'il est tout seul, hein, mais ils sont deux quand même à la tête de l'exécutif, il y a chef de l'État et chef du gouvernement. Mais c'est conçu de telle façon que... Et puis, il l'utilise... Enfin, on parlait tout à l'heure de souveraineté du peuple, mais là, en l'occurrence, eh ben, on peut parler du souverain, hein. Parce que il se comporte comme tel. Et parce que la Constitution, quelque part, elle, quand il est écrit qu'il choisit son Premier ministre, il le choisit. Normalement, au regard des élections, évidemment, Élodie, ta question de tout à l'heure, on a bien compris, sortent des élections des idées, et puis on choisit un Premier ministre qui n'est pas issu de ces idées-là. Donc oui, ça pose problème aussi.
la France, en tant que démocratie, devrait-elle adopter une position peut-être plus claire, plus ferme par rapport à l'actualité internationale? Et question corollaire, comment les citoyens pourraient-ils être consultés par rapport à ces sujets?
Alors, la France devrait être plus claire sur un certain nombre de points, notamment sur ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment. Mais je trouve que c'est une question aussi qui illustre le débat qu'on vient d'avoir entre nous, parce que la position de la France, c'est l'exécutif qui la prend. Et les députés sont vaguement consultés, comme tu dis, tu emploies le mot consultés, sous forme de commission, mais enfin, sur par exemple la reconnaissance d'un État de Palestine, la représentation nationale en était d'accord et l'exécutif n'a jamais réalisé ce vœu. Alors, on soutient à l'international, à l'ONU, la constitution d'un État palestinien, dans le futur peut-être, mais alors, bon voilà. Et tous ces sujets, que ce soit l'Ukraine, le Moyen-Orient, avec maintenant le drame qui commence au Liban, le Congo, etc. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes tous concernés par ce qui se passe ailleurs dans le monde. Nous avons des avis, nos liens à l'international sont multiples, sont complexes et féconds. Et justement, c'est là où la démocratie participative devrait s'exprimer et remonter aussi jusqu'à la représentative, jusqu'à nos députés, de manière à ce que l'exécutif prenne en compte l'avis de la nation. C'est comme ça aussi qu'on lutte contre une pensée de l'enfermement nationaliste. C'est comme ça aussi qu'on existe comme citoyen du monde, ce qui pour l'instant nous est très largement confisqué.
Libre et égaux.
Et voilà qui est dit. C'est ici que notre tour d'horizon démocratique s'achève. Un grand merci à tous. Dans les rendez-vous que nous vous proposons, il y a donné par le groupe d'éducation populaire et culturelle, autrement dit le GPEC, un rendez-vous le 30 novembre à Tis et Métis pour jouer la pièce qui a été créée la saison dernière, Quand l'espoir s'en mêle, qui raconte en gros la vie de la section. Il y a aussi une soirée débat autour du handicap invisible, le 6 novembre à la Manufacture à Tabac, la Manu, à 19h30, et une mobilisation qui est proposée, un rendez-vous, tous les samedis, place Royale à 16h, pour un cessez-le-feu à Gaza, rassemblement organisé par la plateforme 44 des ONG pour la Palestine. Et voilà. Si vous avez des réactions, des questions ou des réponses, écrivez-nous à nantes@ldh-6france.org. Et d'ici le prochain plateau qui se passera encore au bar Personne, comme toute la saison d'ailleurs, un mercredi encore, à 18h30 encore, nous vous souhaitons de belles écoutes sur les ondes de JetFM, la station des droits et des libertés.